France Inter.
France Inter. Hélène Philly. Le 6-9.
Et cela signe le retour de Sophie Parmentier avec ses journaux. Sophie, pour la revue de presse. La revue de presse XXL est dans vos journaux. L'Ukraine, évidemment, est un peu partout à la une, mais brièvement, car la presse écrite a bouclé trop tôt cette nuit pour être exhaustive sur le face-à-face Trump-Zelensky. Et vous ne trouverez donc pas d'article très complet ce matin en kiosque. Alors, je vais vous parler tout de suite d'une autre actualité internationale que le journal L'Humanité met à sa une avec cette photo d'un logement pour 4 voyageurs, une chambre, 3 lits, un logement avec vue biblique. C'est ce qui est écrit sur cette petite annonce Airbnb proposée par Alexander Superhaut. Le logement est situé à Itamar, dans le nord de la Cisjordanie, dans une colonie israélienne, un territoire palestinien occupé. Logement proposé à 472 euros pour 6 nuits. L'UMA publie une autre annonce, celle de Tal, qui ouvre les portes d'un appartement neuf, magnifique, lumineux, donnant sur la mer morte. Noam, lui, promet un espace spacieux et serein à Mitzpé Jéricho. Vous oublierez tous les soucis. Problème, tous ces logements de rêve sont sur des terres volées, titre L'Humanité. Dans ce dossier saisissant sur le tourisme d'occupation en Palestine, d'Airbnb et de Booking.com. Plusieurs associations ont déposé plainte contre ces plateformes. En France, un collectif s'apprête à saisir la justice. Ces colonies israéliennes sont illégales, explique un magistrat. Les contrats qui proposent des hébergements le sont aussi. Je lis encore dans L'Humanité que le nombre de logements Airbnb proposés dans ces territoires est passé de 139 en 2016 à 350 en 2025, avec au passage une commission de plus de 20%. Je vous recommande cet article très documenté, signé Elisabeth Fleury dans L'Humanité. Si je tourne maintenant les pages du Figaro, eh bien je note que l'armée israélienne veut enrôler des jeunes Français et des Américains de 18 à 25 ans. Alors que Benjamin Netanyahou poursuit son offensive dans la bande de Gaza, cet appel a été révélé hier sur les ondes de Radio Tzal, nous dit le Figaro, pour combler une pénurie de quelques 12 000 soldats. L'armée israélienne espère recruter 10 000 jeunes volontaires parmi la diaspora. Et puis, dans cette région, il y a un autre article qui retient mon attention ce matin dans cette guerre au Proche-Orient. Page 6 du quotidien libéral L'Opinion, vous trouverez un article traduit du Wall Street Journal sur le manque d'eau. L'autre crise à Gaza, la plupart des installations d'eau ont été détruites ou endommagées dans l'enclave de Gaza. Nous buvons un verre d'eau par jour, témoigne une mère de 4 enfants pour elle et sa famille. Il s'agit de l'eau distribuée par camion-citerne.
À la une de Libération, Sophie, une enquête sur le travail forcé dans l'industrie du luxe.
Oui, c'est la face cachée du fabriqué en Italie. Après Dior, Armani, Valentino, c'est au tour de Loro Piana, griffe italienne du groupe de Bernard Arnault LVMH, d'être pris la main dans le sac. Encore un bon titre de Libé au passage. Et je vous conseille cette enquête qui a mis en évidence des ateliers clandestins chez l'expert du cachemire, de la laine et de la soie, Loro Piana. Pour confectionner des pulls, des jupes, des sacs vendus très cher, des ouvriers non déclarés travaillaient jusqu'à 90 heures par semaine pour 4 euros de l'heure. Il dormait sur place dans des logements insalubres. Libération consacre ce matin 3 pages et un édito à ces ateliers milanais où les ouvriers étaient traités comme des esclaves.
Et puis ce matin, Sophie, vous choisissez de continuer le récit du monde sur Isabelle Adjani.
J'avoue que je ne résiste pas parce que, comme hier avec l'épisode 1, je trouve que l'épisode 2 de cette série d'été est incroyable, alors je le partage avec vous. Vous le trouverez dans la matinale du Monde. Nous sommes en 1974. Isabelle Adjani n'a que 19 ans. Elle est une débutante époustouflante sur les planches de la comédie française. François Truffaut, génial cinéaste de la nouvelle vague, ressent le besoin de tourner avec elle de toute urgence. Il lui propose l'histoire d'Adèle H.,
H comme Hugo, l'histoire d'un amour obsédé et impossible entre la seconde fille de Victor Hugo et un officier anglais qui ne voulait pas d'elle. Adèle H en perdra la raison. Le Monde nous raconte comment François Truffaut s'y est pris pour convaincre Isabelle Adjani d'accepter ce rôle tragique. Il lui écrit des lettres avec frénésie. Un jour, il lui envoie même un colis gigantesque chez ses parents dans le HLM de Gennevilliers. À l'intérieur, il y a des trésors de littérature, des livres reliés magnifiques. C'était assez féerique de recevoir ça. C'était très beau, se souvient Isabelle Adjani dans le journal. Et c'est le moment où elle accepte de tourner pour Truffaut. Ce sont ses tout premiers pas d'actrice au cinéma. Sans Truffaut, je serais peut-être encore sociétaire de la Comédie française, estime-t-elle. Sur le tournage, Truffaut est fou amoureux d'Adjani, un peu comme à chaque film, à vrai dire. Il l'a été de Jeanne Moreau dans Jules et Jim, de Françoise d'Orléac dans La peau douce ou de Claude Jade dans Baiser volé. Truffaut a 42 ans, Adjani en a 19, mais il était impossible de me dire que ce monsieur était amoureux de moi. Je n'avais pas les outils pour le comprendre, explique-t-elle au Monde. Elle confie leur seul grand moment de proximité. Un jour, elle se rend dans sa suite, elle le découvre dépressif, envahi par ses tourments. Il la regarde et lui dit « Vous avez des oreilles comme un coquillage ». Ils ne se reverront plus vraiment jamais seuls. La passion impossible d'Adèle H devient celle de Truffaut pour la star Adjani. Récit formidable à lire sous la plume de Samuel Blumenfeld dans Le Monde. Ne ratez pas cette série d'été.
Merci beaucoup Sophie Parmentier. Allez, on jette un coup d'œil sur le programme de votre journée sur Inter. Bonjour Saskia Deville.
Bonjour Hélène et bonjour à toutes et à tous.
La technologie reconditionnée est-elle vertueuse? Ce sera le sujet du débat de midi.
Et oui, prolonger la vie d'un objet technologique, c'est éviter d'en produire un neuf, donc réduire son impact environnemental. Et les chiffres sont parlants. Un téléphone reconditionné, rappelle l'ADEME, permet d'épargner 80 kg de matières premières, 25 kg de gaz à effet de serre et 20 000 litres d'eau. L'argument écologique semble donc évident. Et le marché suit. Aujourd'hui, près d'un Français sur quatre utilise un smartphone reconditionné, jonglant ainsi avec plusieurs aspirations, consommer bien sûr de manière éco-responsable, tout en restant tout de même à la pointe de la technologie.
Mais le tableau mérite d'être nuancé, car ce marché dépend de la surproduction qu'il prétend corriger.
Effectivement, sans flux permanent de modèles neufs, pas de vivier pour le reconditionnement. Autre paradoxe, ces téléphones même reconditionnés restent prisonniers de l'obsolescence logicielle. Si les mises à jour cessent, l'appareil devient inutilisable, alors même que son matériel fonctionne encore. Peut-on dès lors parler de durabilité quand le logiciel condamne le matériel? Enfin, la transparence du reconditionnement reste faible. Difficile de savoir d'où viennent les pièces remplacées. Sont-elles neuves ou recyclées? Derrière chaque smartphone reconditionné se cache une chaîne mondiale complexe, souvent opaque. Alors, le reconditionné est-il une véritable solution de sobriété ou un simple moyen de prolonger une logique de consommation massive? Est-ce un pas vers la vertu ou une illusion rassurante qui détourne du vrai chantier? Changer l'industrie en amont, produire moins, produire autrement, en bref, penser la technologie à l'échelle de sa chaîne entière. On en débat ce midi. Posez-nous vos questions sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
Merci Saskia. Tout à l'heure, pour le débat de midi, avant de retrouver ce soir Constance Villanova pour le Mac de l'été. Et aujourd'hui Constance, on parle de l'enfance et des jeux vidéo.
Ce mardi, on part dans l'arrière-pays niçois avec Anthony Passeron qui publie demain son deuxième roman, Jackie. Un texte intime, construit comme une mosaïque. L'histoire d'une enfance se raconte à travers trois consoles de jeux vidéo, autant de jalons d'une mémoire familiale et sociale. Une écriture du soi, entre autofiction et chronique d'époque, où le banal devient matière littéraire. Anthony Passeron n'en est pas à son coup d'essai. Son premier roman, Les enfants endormis, avait marqué les esprits avec son récit sur le sida dans les années 80 et le destin de sa propre famille. Dans Jackie, il poursuit ce travail singulier, raconter un père, une famille, pour en décrire d'autres, la ruralité, la jeunesse, et au milieu, ces consoles autrefois méprisées, reléguées au rang de distractions inutiles, mais qui deviennent ici objet littéraire. On parlera avec lui de nostalgie, de la façon dont on fait entrer le jeu vidéo dans la bibliothèque et de ce que signifie écrire son enfance aujourd'hui. Et pour prolonger cette plongée dans nos mondes virtuels, nous serons rejoints en troisième partie par Hortense Boulay-Ifrène, doctorante. Elle mène une recherche sur ce qu'elle décrit comme de l'archéologie des mondes virtuels. Ses travaux posent une question passionnante. Que deviennent ces univers abandonnés qui continuent malgré tout d'exister? Comment archiver des ruines numériques et préserver la mémoire de nos vies virtuelles? Bref, ce mardi dans le Mac de l'été, c'est le grand plongeon dans l'intime et les pixels de l'enfance.
Merci Constance. Et à ce soir, 18h, avant le journal de 9h, nous retrouvons Christophe Galfard. Notre rendez-vous estival avec la science, la vie à portée de main. Bonjour Christophe.
Bonjour Hélène. J'imagine que, comme moi, vous étiez loin d'être né à l'époque, mais figurez-vous que le 28 septembre 1969, une météorite est tombée en Australie, près d'un endroit appelé Murchison, qui est à une centaine de kilomètres de Melbourne. Cette météorite a été baptisée météorite de Murchison. C'était un bon gros caillou, qui pesait plus de 100 kilos au départ, mais qui s'est fragmenté dans le ciel avant de s'écraser au sol. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de l'été, je vous ai parlé de la disparition des dinosaures et de la théorie des Alvarez, père et fils, qui pensaient que cette disparition avait été causée par un impact de météorite. Cette théorie n'a été au final acceptée qu'après la découverte d'un cratère géant dans le golfe du Mexique. En gros, ça signifie que le cratère du golfe du Mexique a changé les esprits. Eh bien, il en est de même pour la météorite de Murchison. Elle a changé les esprits. Dans l'histoire de notre monde, la plupart du temps, lorsqu'une météorite s'est écrasée quelque part, il n'y avait personne pour le voir. Alors quand un humain a fini par en trouver les restes, il se peut que des années, des siècles ou des millénaires se soient écoulés. On peut alors étudier la météorite, mais les résultats sont toujours à prendre avec des pincettes, car avec le temps, on ne peut pas exclure que la météorite ait été contaminée par la Terre elle-même. Et c'est là que la météorite de Murchison est différente, car on l'a vue frapper la Terre, et des gens sont immédiatement partis à la recherche de fragments. Et ils en ont trouvé plein, tout de suite, ce qui ne leur a pas laissé le temps d'être contaminés. Par chance, en plus, la NASA venait de construire des laboratoires pour analyser les morceaux de lune que les astronautes des missions Apollo n'allaient pas tarder à ramener de là-haut. Alors, les morceaux de météorites de Murchison y furent envoyés immédiatement.
Et les scientifiques y ont trouvé quelque chose ?
Oui, et les morceaux n'ont pas cessé d'être étudiés depuis. Aujourd'hui, voici à peu près ce qu'on pense savoir de ces morceaux venant de l'espace. La météorite de Murchison était, au départ, constituée de poussière d'une étoile gigantesque qui a explosé il y a plus de 7 milliards d'années, pas très loin de l'endroit où est née la Terre ensuite. Il est donc probable que la Terre soit elle aussi faite de poussière provenant de cette étoile, mais il est difficile d'en être certain. Toujours est-il que la météorite de Murchison s'est retrouvée à tourner autour du Soleil et qu'elle s'est échouée sur Terre en 1969. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre les deux, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a trouvé dans les fragments analysés des acides aminés, qui sont les briques de base de toutes les protéines du vivant, ainsi que des molécules qui sont les bases de l'ADN et de l'ARN. Ce que ces analyses ont montré, c'est que toutes les briques nécessaires à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui existent dans l'espace. Et donc que si elles n'ont pas été fabriquées sur notre planète, elles ont très bien pu l'être là-haut. À demain.
Merci Christophe Galfard et à demain.